Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonjour à toutes et tous. Toute l'Europe, les yeux tournés vers l'Italie ce dimanche. La troisième économie du continent renouvelle son Parlement et son Sénat. La coalition de droite pourrait sortir en tête, mais sans doute sans majorité. Il faut dire que le nouveau système électoral mis en place est particulièrement complexe. Mathilde Imberti nous aidera à y voir plus clair. Dans ce journal, nous ferons aussi le point sur la situation dans le nord de la Syrie. L'armée turque continue sa progression contre les Kurdes à Afrin, mais c'est au prix de lourdes pertes. Dans la Ghouta orientale, le régime syrien gagne lui aussi du terrain sur les rebelles. Preuve que la trêve onusienne est toute théorique. L'actualité en France, c'est le salon de l'agriculture qui se termine à Paris. Les éleveurs présentent leurs bêtes au concours agricole. Une médaille pour la fierté et surtout pour les retombées économiques. Et puis un livre sur la puberté fait polémique. Il veut décomplexer les adolescentes mais emploie certains clichés sexistes. C'est en tout cas l'avis d'un collectif féministe qui a déjà réuni 100 000 signatures pour faire interdire l'ouvrage. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h ce matin en Italie. Près de 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire pas moins de 945 parlementaires. Trois forces principales s'opposent pour ces législatives. La coalition de droite, un alliage formé par Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord et les Frères d'Italie, deux formations d'extrême droite, le populiste Mouvement 5 étoiles et à gauche le Parti démocrate. Un scrutin à l'issue très incertaine et qui inaugure un tout nouveau système électoral très complexe, Mathilde Imbert.
Pour tenter d'aider l'électeur italien, une vidéo officielle circule, elle dure quasiment 2 minutes. Objectif, s'en sortir dans l'isoloir avec 2 feuilles en main, une pour le Sénat, une pour la Chambre des députés. Des noms à cocher, ceux du candidat ou ceux de son parti. Une opération à appliquer aux 2 collèges, celui qui se joue au système majoritaire et celui qui dépend du proportionnel. La répartition des sièges découlant de cette nouvelle loi électorale s'annonce des plus complexes. Le ministère de l'Intérieur a rebaptisé la nuit électorale à l'avenir, la nuit de l'algorithme. Tout cela prendra des heures, les bureaux de vote ne ferment qu'à 23h, les premières tendances fiables sont attendues au cœur de la nuit, les résultats définitifs demain à la mi-journée. De l'attente pour aboutir peut-être à un Parlement sans majorité nette et la plus grande difficulté à former un exécutif. Selon les projections, aucune formation ne semble en mesure de gouverner seul le pays.
Pour le politologue Giovanni Orsina, professeur et chercheur à l'université Louise de Rome, c'est justement cette incertitude qui pourrait finalement profiter à la coalition de droite, surtout après une campagne dominée par les questions d'immigration et de sécurité.
Il y a, je pense, une ère de droite maintenant en Italie et il y a la possibilité que dans les dernières 24 heures, beaucoup des électeurs vont se décider pour la droite, pour les réflexes du vote utile. Ça, c'est la seule coalition qui peut avoir une majorité. Je vais voter pour elle parce que je vais donner un gouvernement à l'Italie. S'il y a un gouvernement de droite, et surtout si la Ligue de Salvini est très forte dans la coalition, bien sûr, il aura une politique plus étroite sur l'immigration. Peut-être le gouvernement essayerait d'expulser beaucoup de migrants illégaux. Et je pense qu'une possibilité, c'est une politique européenne de l'Italie qui est plus proche du groupe de Visegrad que de l'axe franco-allemand.
Giovanni Orsina, professeur et chercheur à l'université Louis de Rome. Le double attentat de Ouagadougou, qui a fait 8 morts vendredi, a été revendiqué hier soir. Il s'agit du GSIM, le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans, qui dit avoir agi en représailles à une attaque française au Mali. Cette coalition djihadiste, présente essentiellement sur le sol malien, est soupçonnée d'avoir commis un autre attentat dans la capitale burkinabé en août dernier, celui du café Aziz Istanbul, qui avait fait 19 morts. Vendredi, c'est l'ambassade de France et le siège des armées qui ont été visés. En Syrie, les forces du régime continuent de gagner du terrain dans la Ghouta orientale. Elles ont repris 10% de l'enclave rebelle à l'est de Damas, sachant qu'elles en possédaient déjà les 3/4. Au nord-ouest du pays, c'est l'armée turque qui progresse dans la région kurde d'Afrin. Ankara, alliée à des groupes rebelles syriens, multiplie les bombardements aériens depuis jeudi soir. Et le bilan est de plus en plus lourd pour les forces du régime. 54 combattants tués. Les précisions de notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer.
La Turquie a déjà perdu beaucoup d'hommes sur le front d'Afrin, alors que les combats se déroulent toujours pour l'instant dans des zones montagneuses et rurales, et que la bataille urbaine, dans le centre de l'enclave kurde, n'a pas encore commencé. La mort de 8 soldats jeudi dans une seule et même attaque, l'une des plus meurtrières depuis le début de l'opération, porte à une quarantaine le nombre de militaires turcs tués depuis le début. Les affrontements sont de plus en plus intenses, les milices kurdes utilisant des tunnels pour tendre des embuscades aux chars turcs. L'offensive est aussi compliquée par le fait que ce ne sont plus seulement les milices kurdes qu'Ankara combat à Afrin, mais aussi des forces loyales au régime de Bachar el-Assad, venues leur prêter main forte. Ces combattants pro-régime sont une cible de l'aviation turque, qui redouble de bombardements ces derniers jours, mais aussi une menace supplémentaire à mesure que l'armée d'Ankara progresse en territoire syrien. Diplomatiquement, la situation ne s'arrange pas non plus pour la Turquie. Son offensive n'est soutenue par aucun de ses alliés, qui l'appellent au contraire à respecter la trêve annoncée par l'ONU, y compris dans l'enclave d'Afrin. Cela ne fait pas pour autant reculer le président Recep Tayyip Erdogan, qui a juré d'aller jusqu'au bout et assure même que l'offensive va bientôt entrer dans une nouvelle phase, sans doute avec le renfort de nouvelles troupes et la perspective de combats encore plus intenses et donc plus meurtriers.
Anand Lauer, correspondante de France Culture à Istanbul. Après le défilé des politiques, place à la compétition au Salon de l'Agriculture à Paris. La 55e édition se termine ce soir porte de Versailles, mais avant, il y a le Concours Général Agricole des Animaux. Et depuis 1870, il sélectionne chaque année les meilleures bêtes reproductrices. C'est souvent pour les éleveurs le résultat de longs mois de préparation, une fierté d'y être sélectionné et un atout pour leur développement commercial. Emmanuel Ruffez a rencontré un éleveur venu de la région de Limoges avec sa vache Jouvence de race Limousine.
Philippe Desoulières, de l'élevage du même nom, les couves du regard, sa vache Jouvence et son veau un peu plus loin Nougatine. Car elle a Jouvence toutes les caractéristiques des Limousines, une race à viande implantée partout en France, mais aussi dans 80 pays à l'étranger.
C'est un animal qui correspond aujourd'hui à ce qu'on recherche, si vous voulez. Elle a ce qu'on appelle les fondamentaux de la race, qui sont des critères tels que la largeur de bassin, les épaisseurs musculaires, la rectitude, une élégance quand elle défile, et des qualités de race. Enfin bon, voilà quoi, c'est un animal assez complet, comme on aimerait en avoir plus dans nos élevages.
Jouvence a gagné des concours dès son plus jeune âge. Là, pour sa seconde participation à Paris, elle termine deuxième prix. Et c'est déjà beaucoup pour se faire un nom dans un milieu très concurrentiel.
Ça nous apporte une publicité et cette publicité, elle va nous amener des clients après dans les mois ou années suivantes dans nos élevages. Les animaux qu'on amène en concours ici sont la vitrine de nos élevages. Il faut donner envie aux clients potentiels de venir à la maison pour éventuellement faire du commerce.
De son élevage situé à une vingtaine de kilomètres de Limoges, Philippe Desoulières vend 80% pour la reproduction, bêtes, mais aussi semences et embryons, en Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Luxembourg, jusqu'au Mexique et Nouvelle-Calédonie.
Des échauffourées, mais pas d'incidents graves hier à Bure, dans la Meuse. 300 à 400 personnes ont défilé en opposition au site d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo, 10 jours après l'évacuation du Bois-le-Jus. Des membres du collectif d'opposants, des élus et des militants plus radicaux ont bravé l'interdiction de la préfecture. Certains ont lancé des projectiles sur les gendarmes qui ont répliqué par des grenades lacrymogènes. Une personne a été placée en garde à vue. 100 000 signatures en moins de 24 heures. Une pétition lancée sur Internet demande le retrait d'un livre destiné aux préados. On a chopé la puberté, c'est son titre publié par les éditions Milan et destiné à décomplexer les filles. Mais certains propos ont été repérés par un collectif féministe qui dénonce un ouvrage sexiste. Écoutez plutôt, on peut y lire dans cet ouvrage cette phrase « Grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré l'attention du bel Ethan. » Un livre dégradant, estime Madeleine Da Silva, militante féministe au groupe F et adjointe chargée de la petite enfance à la mairie des Lilas.
Ce livre véhicule des clichés sexistes, mais également sexualise les enfants entre 8 et 13 ans. Et en plus, il inculque aux enfants une sorte de rejet du corps féminin, comme si c'était honteux d'avoir les seins qui pointent, comme s'il fallait avoir une poitrine volumineuse, mais également ne pas être gros, pour être beau ou rentrer dans une sorte de norme sociale. Ce livre va être mis entre les mains d'enfants. On a une responsabilité par rapport au message qu'on fait passer aujourd'hui. Après MeToo, après Balance ton porc, on ne peut pas proposer un ouvrage d'éducation qui va justement à l'encontre et qui continue à véhiculer ces clichés sexistes. Ça, c'est un ouvrage qui aurait pu sortir dans les années 60, 70, 80. On n'en est plus là. On n'en est plus là du tout.
Lui semble avoir le goût de la polémique. Antoine Gallimard n'a pas renoncé à publier les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. Il le dit dans une interview au JDD. Le projet étant toujours d'accompagner les écrits d'un appareil historique avec une analyse d'un professeur d'université. La maison d'édition Gallimard avait renoncé à cette publication début janvier après une vague d'indignation. Serge Klarsfeld, notamment président de l'association Fils et filles de déportés juifs de France, s'en était ému. Un temps plus pluvieux sur tout le flanc ouest et des nuages partout. Voilà le cocktail météo de votre dimanche. Le mercure se stabilise avec entre 8 et 12 degrés en général, 13 ou 14 vers le Pays Basque et 13 à 15 degrés près de la Méditerranée.